14h sur France Culture. Bonjour à tous et bienvenue dans Entendez-vous l'écho. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Jérémy Kaufmann.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous achevons notre série consacrée à la grève au lendemain de la grande mobilisation qui a paralysé une partie du pays hier. Entre 800 000 et 1,5 million de personnes sont descendues dans les rues. Une fronde sociale qui fait ressurgir chez certains l'espoir d'un renversement de l'ordre établi. Des rêves de grands soirs qui peuplent les imaginaires depuis l'invention de la grève générale. Comme l'écrit l'historienne Michel Perrault, il a fallu mai 68 pour nous rappeler un bref moment que la grève peut être autre chose qu'un scénario économique bien conduit, mais explosion de désirs latents, de rêves refoulés, libération du geste et de la parole, fête du peuple assemblé. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure séditieuse d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler du mythe du grand soir et des révoltes contemporaines en compagnie de l'historienne Ludivine Bantini, maîtresse de conférences à l'université de Rouen et chercheuse au centre d'histoire de Sciences Po, et du politiste Jean-Marie Pernaud, chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale. Ludivine Bantini et Jean-Marie Pernaud, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, à quand remonte cette idée de grève générale, une idée selon laquelle peut-être la paralysie de l'économie pourrait renverser l'ordre établi et mettre fin à la société capitaliste, Ludivine Bantini?
En fait, on peut la dater des années 1880. C'est le moment où apparaît d'ailleurs l'expression de grand soir dans les courants, on va dire, libertaires. Les travaux notamment d'Aurélie Carrier, dont le livre sur cet imaginaire révolutionnaire et libertaire autour du grand soir est paru à Libertalia, montre bien qu'il s'agit d'abord d'une grève dans les secteurs ouvriers, dans les secteurs miniers notamment, à Monceau-les-Mines, à Blanzy, au Creusot. Et donc c'est à la fois un mélange de révolte sociale et économique et de soulèvement politique, avec cette idée qu'il s'agit de bloquer l'économie comme une arme décisive pour le monde du travail, pour le monde ouvrier, dans le rapport de force qui lui est si souvent défavorable. L'idée c'est qu'il y a plusieurs voies possibles pour mettre en cause le système économique, en l'occurrence capitaliste, qui est dénigré et souvent honni dans ces milieux, soit l'insurrection, c'est ce que prônent par exemple les courants politiques autour du blanquisme, l'insurrection, la révolution. Et puis donc une autre hypothèse, c'est la grève générale qui passe d'abord par le blocage dans les usines, dans les entreprises, les deux pouvant se mêler. Mmh. Et d'ailleurs, la grève générale est une perspective qui est inscrite ensuite par la CGT, en particulier dans la charte d'Amiens en 1906, dont dans une logique de syndicalisme révolutionnaire.
Alors on va reparler évidemment du syndicalisme révolutionnaire, mais d'abord un mot, Jean-Marie Pernaud, sur les origines de la grève générale, de cette idée de grand soir, et peut-être sur les théoriciens de cette idée. Je pense au philosophe Georges Sorel, qui a contribué à diffuser la pensée marxiste en France. Est-ce qu'il a joué un rôle dans la diffusion aussi de cette idée du grand soir ?
Dans les couches intellectuelles, certainement, mais son influence est plus tardive, elle vient après. L'organisation du mouvement ouvrier s'est fait beaucoup autour de cette thématique de la grève générale. Elle est apportée par les anarchistes, libertaires, et dans le mouvement syndical, par les anarcho-syndicalistes, notamment l'anarchiste Tortelier, qui passe pour le premier à avoir cherché à théoriser un peu le rôle de la grève générale dans l'action ouvrière. Elle sera reprise effectivement par de nombreux courants à la fondation de la CGT, pas seulement les anarcho-syndicalistes d'ailleurs, aussi certains courants socialistes antiparlementaires, assez radicaux, évoqueront la grève générale, pas tous. C'est un grand débat à la création de la CGT entre les tenants de la grève générale et ceux qui, tout en étant des socialistes radicaux, la refusent comme moyen d'action et préfèrent s'en remettre à l'action politique. C'est un débat très structurant de la naissance du mouvement syndical en France.
Alors on va en venir à ce mouvement syndical, mais d'abord je vous propose d'écouter l'historienne Aurélie Carrier que vous citiez, Ludivine Bantini.
Tout au long du XIXe siècle, la Révolution était souvent métaphorisée justement sous l'image du grand jour. Et quand, dans la dernière décennie, dans les années 1890, cette expression de grand soir apparaît, le grand soir étant le symbole même de la destruction de la société bourgeoise, dont le lendemain, à l'aube, verra l'harmonie et la société nouvelle, cet obscurcissement du mot, cette passage du jour, du grand jour au grand soir, tient d'une part parce que la succession des mouvements révolutionnaires tout au long du 19e siècle, après la Révolution 89, mais par l'échec, et surtout quand on pense à 1848 où la Commune ont été réprimées dans le sang. Donc il y a une idée de vengeance, il y a aussi une idée que la Révolution sera nécessairement violente, qu'on ne pourra plus être pacifique. De cette radicalisation s'accompagne aussi une laïcisation, pourrait-on dire, des images, puisque le grand jour peut bien sûr faire référence à la Bible. Et dans les représentations du grand soir que j'ai trouvées, notamment dans la presse anarchiste, finalement, il n'est plus question de justice divine, mais bien de justice populaire avec le grand soir. C'est le peuple qui est l'agent du changement et qui va œuvrer pour le grand soir.
Ludivine Bantigny, si l'on en croit Aurélie Carrier, le grand soir, c'est l'idée d'une révolution nécessairement violente avec une justice populaire qui viendrait remplacer la justice divine.
C'est-à-dire que la révolution n'est pas en elle-même violente, n'est pas intrinsèquement violente. Ce qu'il est, c'est le rapport de force qu'elle engage et le fait que face à elle, elle trouve des puissances qui dominent et qui, quant à elles, ne veulent évidemment pas voir remises en cause leurs intérêts par et dans la révolution. Donc forcément, le rapport de force qui s'engage est violent, mais la révolution en soi peut ne pas l'être. Ce qui me frappe aussi dans ce qui est dit par Aurélie Carrier, c'est la manière de souligner ce rapport grand jour, grand soir. Ça me rappelle que on parlait beaucoup dans cette presse du syndicalisme révolutionnaire ou des courants libertaires de ces années fin 19e, début 20e, de l'aube rouge. Et d'ailleurs, en écho à un titre récent du comité invisible L'insurrection qui vient, qui a beaucoup fait parler de lui, déjà en 1906, on avait dans la presse toute une série, je pense à l'Écho de Paris par exemple, toute une série d'articles qui s'intitulait La révolution qui vient. Alors, ça a été aussi beaucoup théorisé ensuite, hors de France, notamment par quelqu'un comme Rosa Luxembourg, hein, qui parlait de grève de masse, grève des masses, et qui d'ailleurs y voyait aussi un apprentissage politique à vitesse accélérée et considérable. C'est-à-dire que deux semaines avant le début d'une telle grève, on n'a pas du tout conscience que c'est possible. Et tout à coup, la grève générale modifie et métamorphose les consciences et les capacités d'agir, en fait.
Elle est intéressante, Jean-Marie Pernaud, effectivement, cette métaphore du grand jour qui devient le grand soir et cette idée de l'aube, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
C'est l'idée des lendemains qui chantent, c'est l'idée... Et au fond, ça interroge sur qu'est-ce qui fait que les gens passent à l'action, quoi. Quel est ce qui provoque. Alors, on peut, à l'examen de ces situations toujours un peu particulières qui nous font penser à des embrasements, je crois qu'il y a la question de l'espérance qui est fondamentale. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas à l'action collective parce que ça va mal ou que ça va très mal ou que ça va de pire en pire, mais parce qu'il y a une lueur d'espoir quelque part, que les choses puissent changer, en particulier pour peu qu'ils s'en occupe, qu'ils puissent peser sur le cours des événements. Et ça suggère des conjonctions de conjonctures, comme disait Michel Perrault, qui font qu'à un moment donné, difficile à programmer, à prévoir, et qui répond à aucun mot d'ordre syndical, en général, les choses peuvent se cristalliser et créer une sorte de rupture. Je crois que derrière, il y a cette idée quand même de rupture qui a lieu dans les prises de conscience et qui font penser à beaucoup de gens qu'au fond cette rupture pourrait très bien être une rupture de système économique tout aussi vite. Bon, on sait bien que les structures économiques changent pas à la même vitesse que les états d'esprit, mais en tout cas, à un moment donné, ça joue sur des prises de conscience qui peuvent être effectivement très radicales, très rapides.
Et c'est ce qui explique aussi que le grand soir, ce soit un mythe peut-être que l'on active pour réenchanter les luttes. C'est ce qui a pu se passer au cours du XXe siècle, Ludivine Bantigny.
Il me semble que dire mythe, c'est déjà contribuer à disqualifier, enfin c'est c'est pas vous qui le dites, hein, mais c'est en effet beaucoup de commentateurs ont utilisé ce mot de mythe et ça contribue, me semble-t-il, à disqualifier ou à discréditer, à dénigrer en fait cette perspective.
Même alors le penseur marxiste Georges Sorel parle de mythe social.
Oui, mais c'est justement pour cette raison qu'on s'est beaucoup appuyé en effet sur lui pour considérer que c'était un mythe. En fait, dans les années où émerge cette thématique véritablement de la grève générale, où elle est non seulement théorisée, mais aussi avec des tentatives réelles de mise en pratique. Je pense au grand mouvement de 1906, autour du 1er mai, pour ce qui concerne la France, où il s'agissait de revendiquer les 8 heures, et où il y a véritablement eu un mouvement de grève généralisée qui a beaucoup déstabilisé le pouvoir en place et qui a craint précisément une révolution. C'était vraiment l'idée que oui, ça fait partie du champ des possibles, ça fait partie en fait d'une nécessité historique de pouvoir se réapproprier aussi son travail, ses conditions même de travail, de pouvoir décider. Et à cette époque d'ailleurs, puisque vous parliez à juste titre du fait que souvent cette grève générale est spontanée, ne procède pas d'un mot d'ordre de direction syndicale, mais à cette époque, encore une fois, la CGT fait figurer la grève générale comme une arme décisive dans ses statuts et y appelle régulièrement. Elle y a renoncé par la suite. C'est vrai que les soulèvements dont on parlera plus tard, jusqu'en 1968 entre autres, ne sont pas, enfin, ne procèdent pas d'appel à la grève générale. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, outre le dénigrement, en tout cas sous la forme d'un renvoi à une mythologie, il y a une réappropriation quand même de cette perspective. Et d'ailleurs, on peut lire dans la presse du jour, même voilà, dans des médias qui sont loin de se rallier à cette perspective, qu'il y a bel et bien là un début de grève générale.
Jean-Marie Pernaud, vous aussi, vous récusez ce terme de mythe. Qui peut être associé à cet imaginaire de réenchantement des luttes.
Alors, c'est un peu Sorel quand même qui l'a mis, qui le mettait au centre de sa réflexion sur la grève générale. Et il disait au fond, peu importe qu'elle soit réaliste ou pas, il y en aura pas, on mesure bien la difficulté, mais tous ces arguments sont billevesés. L'important, c'est la dimension morale. Et il voyait dans la grève générale une sorte d'idéal moral. Alors, parce que vous dites, il a contribué à l'introduction du marxisme en France, certes, mais teinté de bergsonisme quand même dans son époque. Hein. Donc il appuyait beaucoup sur la subjectivité et finalement, lui, il le conçoit pas du tout comme une désignation disqualifiante de mythe, mais pour lui, ça doit fonctionner comme ça. Peu importe si c'est possible ou pas, mais ça donne au combat ouvrier une sorte de morale radicale et inspirante.
Et alors cet espoir, cet idéal du grand soir s'est incarné notamment dans le mouvement de mai 68.
Ce que je dis, c'est ceci. On n'a plus que foutre des élections. On n'a pas besoin d'un parti électoraliste.
Ce qu'il faut... Mais dans ton optique, on a besoin d'un parti révolutionnaire.
On a besoin d'un mouvement révolutionnaire.
Ah oui, il fera quoi?
Si ce mouvement révolutionnaire,
ou bien qu'il ait une direction centralisée.
Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'élaborer une perspective révolutionnaire précise.
Mais la direction centralisée. Laissez-moi parler une seconde. Le truc fondamental, à mon sens, c'est qu'il faut que ce mouvement permette la discussion permanente et l'affrontement des idées. Que ce soit plus comme les vieux partis où la vérité vient d'en haut et où les membres du parti sont priés d'écouter. Oui, mais c'est fondamental, c'est une conception complètement différente d'un parti.
Oui, mais ça c'est une question de méthode, mais pour la direction du mouvement, pour la réalisation.
Pourquoi, quand on a commencé ce mouvement, il en était temps dans un ghetto. La classe ouvrière considérait les étudiants comme des fils de bourgeois incapables de se battre contre la police et qu'il foutrait le camp en premier.
Je te signale qu'ils sont des fils de bourgeois.
Oui, enfin, même ça, Marx a dit qu'on ne juge pas les hommes par rapport à leur origine sociale, mais par rapport à leur...
Cela n'exclut pas qu'ils puissent être des alliés de la classe ouvrière, peut-on entendre difficilement, certes. C'est un extrait d'un documentaire de William Klein, Grand Soir et Petit Matin, qui a été réalisé avec Daniel Cohn-Bendit. Ludivine Bantini, mai 68, a réveillé les espoirs révolutionnaires dans la France des Trente Glorieuses.
Alors, déjà, France des Trente Glorieuses, ça m'embête un peu comme expression, parce que bon, elle est de plus en plus nuancée, voire mise à distance par l'historiographie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, précisément, sinon on comprend pas l'irruption de mai-juin 68, parce qu'en fait, les glorieux par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport au taux de croissance? Alors oui, voilà, le taux de croissance de la France à cette époque, c'est 6% environ annuel, mais en revanche, on est face à des conditions de travail qui sont très dures. La France est le pays d'Europe où on travaille le plus, plus longtemps, voilà, avec des semaines de travail de 46, 48 heures, 50 heures en moyenne, où on a des conditions de rémunération qui sont encore très faibles, hein, beaucoup de petits salaires, des logements, une situation du logement qui est encore loin d'être florissante, etc.
Voilà. Donc glorieuse, quoi, première... plus pour les classes moyennes peut-être que pour les classes populaires.
Exactement, voilà. Et en effet, 68 est un moment de surgissement, mais qui est précédé lui-même de très nombreuses grèves. Hein. L'année 1967, par exemple, a été une année de pic de grève. Et les grévistes revendiquent en général l'amélioration justement de ces conditions de travail, parlent beaucoup de l'exploitation. L'un des mots-clés aussi, c'est celui d'aliénation, alors qu'il peut être décliné de diverses façons. Mais c'est l'idée vraiment que on se tue en quelque sorte à petit feu au travail, encore une fois avec une durée du travail qui est tout à fait considérable. On commence vraiment à s'interroger aussi sur la qualité de ces conditions de travail, mais aussi des rémunérations. On se pose aussi d'autres questions sur la sécurité sociale. Il y a en 1967 des ordonnances qui mettent en cause son fonctionnement. Donc tout ça procède d'une multiplication en fait d'aspirations, de revendications, mais aussi d'espoir. Donc, c'est la première remarque sur votre question, mais il n'empêche qu'elle garde toute sa pertinence. C'est-à-dire que oui, il y a des espoirs révolutionnaires. Beaucoup parlent en 1968 de révolution, quoi qu'on dise et quoi qu'on mette en fait derrière ce terme. Il y a vraiment une volonté d'émancipation. Et pour ça, en effet, d'auto-organisation. 68 est aussi un moment où on occupe les lieux de travail.
Oui, voilà. Mais alors comment cette révolte, qui est d'abord ouvrière, se propage-t-elle au milieu étudiant, universitaire? C'est une question qu'on peut se poser.
C'est intéressant que vous posiez la question de cette façon, parce qu'en général, on dit le contraire, mais je pense que c'est vous qui avez raison. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on dit, ben voilà, ça commence début mai à la Sorbonne, enfin évidemment d'abord à Nanterre, et puis ça se propage ensuite à partir du 13 mai en grève généralisée, qui est en réalité belle est bien une grève générale avec 10 millions de personnes qui arrêtent le travail. Mais je trouve que la manière dont vous posez la question est juste finalement, parce que comme je viens de le dire, en 1967 et puis début 1968, il y a eu des grèves ouvrières qui ont été très importantes, qui ont beaucoup marqué aussi le monde étudiant. Je pense par exemple à ce qui s'est passé à Caen, où il y a eu une convergence déjà du monde du travail ouvrier, de la fonction publique, des enseignants, des étudiants et même des agriculteurs qui sont venus soutenir ces grèves dures avec des affrontements avec les forces de l'ordre. Et donc, ce qui a fait le liant en 1968, c'est l'opposition à la violence policière, à la violence de la répression contre ces jeunes gens, qui n'étaient pas que des étudiants. D'ailleurs, au début de mai, on peut voir dans les archives qu'il y avait aussi beaucoup justement d'ouvriers, mais aussi de salariés, de l'artisanat, des commerces, des restaurants, etc. Et je crois que ce qui était vraiment très fondamental en 1968, encore une fois, c'est l'occupation des lieux de travail qui sont, à l'aune de la grève générale, métamorphosés. On se réapproprie ces lieux pour tenir des assemblées générales, pour mener ensemble des actions collectives et dès lors prendre le temps de se trouver, de se retrouver et d'imaginer aussi une société différente, débarrassée de la contrainte du profit, de la productivité, de la compétition.
Jean-Marie Pernaud, mai 68, c'est l'exemple plus probant de ce que peut-être, de ce que devrait être la grève générale?
Oh, devrait être. Je me garderai d'un propos normatif sur un sujet qui évoque aussi beaucoup la spontanéité. Enfin, encore que la spontanéité, il faut l'interroger. Après coup, c'est plus facile, mais Ludivine Bantigny a raison de rappeler que ce mouvement ne sort pas comme ça. D'abord, il ne sort pas du mouvement étudiant, c'est tout à fait vrai. Il ne sort pas du chapeau et il ne vient pas après des 30 glorieuses qui, au fond... Je me joins tout à fait à ce qui a été dit sur cette appellation. En fait, c'était la période du plein emploi relatif. Mais enfin, je crois que c'est à peu près la seule chose qu'on peut mettre au crédit de cette période, c'est qu'on n'avait pas les taux de chômage qu'on a eu après.
Donc plein emploi, mais à quelles conditions?
Alors, à quel prix, plein emploi, quel type d'emploi? Effectivement, pénibilité, violence, retard des salaires, puisque les 35% d'augmentation du SMIC étaient finalement pour beaucoup du rattrapage, de retard. D'ailleurs, quelques grèves, comme celle des mineurs de 63, avaient des revendications de salaire qui étaient déjà du rattrapage. Donc on est bien quand même dans un gros effort de mise à jour. Alors 68, alors les occupations, c'était déjà c'était déjà 36 en fait. C'est en juin 36 qu'on a vu les premières à cette échelle, parce qu'il y en avait eu quelques-unes avant, mais à cette échelle, l'occupation l'occupation des entreprises.
Oui, Ludovic Bantigny a parlé de 10 millions de voilà. grévistes. Alors, ça, c'était l'acmé le 24 mai.
La grande différence de 68, c'est que dedans, il y a les services publics et les fonctionnaires qui étaient absents de la conflictualité en 36. La 36 est une grève générale ouvrière dans les entreprises privées, mais les trains roulent. Hein, alors qu'en 68, on a l'ensemble des services publics qui témoignent aussi de l'évolution de la structure sociale, économique, l'état social, etc. dans l'intervalle. Mais on a là, cette fois-ci, l'entrée en majesté de tous les secteurs dits statutaires dans l'action collective. Et effectivement, ça amplifie nettement l'arrêt de travail. Là, pour le coup, devient extraordinairement massif. Comme il a été dit.
Et est-ce qu'on peut parler de mai 68 comme d'une mise en pratique de la désobéissance civile, Ludivine Bantigny ?
Oh, c'est une expression qui n'est pas employée, mais pourquoi pas ? Pourquoi ne pas la reprendre ? C'est-à-dire que, bon, l'un des grands mots, mais il n'est vraiment pas le seul, c'est le mot contestation. C'est-à-dire que c'est un esprit qui est d'abord un esprit critique, mais qu'il ne faut pas entendre dans le sens de la négativité, de la négation. Un esprit critique, en fait, on décide de ne plus accepter ce qui est dit par le pouvoir, par toutes les formes de domination, par le patronat, comme allant de soi, comme des évidences. Ça s'explique aussi par la scolarisation, par le fait que les gens réfléchissent de plus en plus finement en fait sur leur situation via les médias, via aussi encore une fois le rôle des organisations syndicales qui du point de vue de leur direction ne sont pas toujours dans des appels justement à la grève générale, mais qui à la base en fait mènent un travail justement de diffusion de certaines informations et de discussions collectives. Donc il y a une subversion fondamentale par le fait même encore une fois d'occuper, de mettre en cause aussi la personnalité de Gaulle, de mettre en cause l'État, et puis encore une fois, d'imaginer autre chose. C'est ça qui est vraiment fondamental en 1968, c'est qu'une parole populaire qui est une parole profondément politique se libère. Elle est politique, pourquoi ? Parce que elle pose des questions radicales sur ce qu'est une cité, la police au sens grec. On se réunit dans les quartiers, on se réunit justement dans les lieux de travail pour réfléchir à ce que pourrait être un monde différent. Alors par exemple, on se dit, qu'est-ce que serait un monde sans publicité ? Qu'est-ce que serait un monde sans monnaie ? Qu'est-ce que serait un monde sans héritage ? Etc. Les lycéennes et lycéens aussi qui occupent leurs établissements réfléchissent à des pédagogies alternatives. C'est fascinant parce que c'est comme si ils et elles avaient lu Freinet ou Montessori, ce qui n'est pas le cas, mais précisément, le temps libéré par la grève donne à imaginer, donne à réfléchir et à concevoir tout autre chose.
Tout a été réparé. Voilà la page qui vient d'être inscrite au livre tourmenté de notre histoire. Maintenant que semble s'éloigner une épreuve qui eût emporté tout autre régime que le nôtre et que nous n'avons sur le moment surmonté que grâce à un gouvernement solide et déterminé autour du chef de l'État, il est vital que la France reprenne sa marche en avant. Tout d'abord, puisque la République a failli nous être arrachée, nous devons nous unir, non seulement pour la défendre et y remettre tout en ordre, faute de quoi c'est le malheur qui aurait décidément gagné, mais encore pour la rendre plus efficace et plus fraternelle.
Le général de Gaulle, le 29 septembre 1968, une épreuve qui eût emporté tout autre régime que le nôtre, la République a failli nous être arrachée. Qu'est-ce que ces mots, Jean-Marie Pernaut, nous disent de l'inquiétude qui a été suscitée par le mouvement de mai 68 ?
Ah, il y a eu une grande terreur des classes dominantes, plus largement de ceux qui avaient intérêt à la préservation du système, et puis c'était une remise en cause du général de Gaulle, qui à l'époque, souvenons-nous-en, enfin pour les plus anciens, avait encore un certain prestige, il incarnait la France, il incarnait la résistance, etc. Enfin, tout ce qu'on sait sur ce personnage, d'ailleurs, ça a une certaine gueule quand même, le discours qui tenait là, ça tranche avec une certaine actualité. La survenue de ce mouvement, qui n'était anticipé par absolument personne, rendait illisible la situation. On avait l'impression que les classes populaires s'étaient équipées en frigo et en voiture, et qu'à partir de là, Sa Majesté la République pouvait avoir de beaux jours devant elle, et tout d'un coup arrivent des aspirations, l'exposé de ses frustrations, de ses attentes, à une échelle qui fait descendre 10 millions de personnes dans les rues ou sortir de leur lieu de travail. C'est quelque chose qui était totalement hors des scénarios de tout le monde. Tout le monde, d'ailleurs, a été surpris, les syndicats eux-mêmes. Mais,
Et alors, justement, vous parlez des syndicats, je voulais y venir. Quelle était leur place dans ces événements de 68? Parce qu'on va parler dans un instant du phénomène de désyndicalisation, mais qui apparaît seulement à partir de la fin des années 70. Donc, à la fin des années 60, on a encore des syndicats forts. Quel rôle est-ce qu'ils jouent, Ludivine Montigny?
Alors à la base, encore une fois, comme j'essayais de le dire rapidement tout à l'heure, il joue un rôle essentiel. En fait, il y a plusieurs configurations, évidemment, en 1968, dans le processus même de mise en grève. Il y a des endroits où ce sont des jeunes non syndiqués qui décident de lancer, d'initier la grève et d'entraîner avec eux leurs aînés qui ont plus d'expérience syndicale, mais qui parfois peuvent être plus à distance de la pratique. Au contraire, il y a d'autres endroits où les syndicats jouent un rôle tout à fait majeur et d'emblée parlent d'auto-organisation de la grève, parlent de comités de grève. Précisément, ces comités de grève sont eux-mêmes divers. Parfois, ce sont des comités de grève composés uniquement des forces syndicales. À d'autres endroits, ils sont tout à fait ouverts à des salariés non syndiqués, donc les configurations sont multiples. Et je pense que sans être trop schématique ni caricatural, l'opposition un peu classique entre la base et les directions des confédérations syndicales rejoue quand même en 1968. Pourquoi ? Parce que d'un côté, à partir du 13 mai, ces directions de confédérations syndicales appellent à une grève générale, hein, c'est bien dit comme ça, mais de 24 heures, donc ce qu'on appelle une grève carrée dans tous les secteurs. Mais l'idée, c'est de s'en tenir là, de s'en tenir à cette journée. Et donc le lendemain, par la spontanéité même de la reconduction de la grève, d'ailleurs avec occupation, ça commence à Sud Aviation à Bouguenay près de Nantes, la grève est reconduite et puis ensuite ça fait tache d'huile. Il y a une sorte d'émulation aussi dans la grève, se dire que mais voilà, il faut en être, c'est un moment historique, etc. Et en fait, au tournant du mois de mai et juin, à la fin du mois de mai, avec les négociations de Grenelle, la plupart, enfin, notamment la direction de la CGT, se dit voilà, comme le disait Thorez pendant le Front populaire, il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue. Et là surgit aussi une dissociation et entre les syndicats, parce que la CFDT n'est pas du tout sur cette base à ce moment-là. Elle pense qu'il faut continuer, que c'est pas suffisant du tout ce qui a été acquis à Grenelle. Ça n'a rien à voir avec la CFDT d'aujourd'hui. Et puis au sein même de la CGT, il y a aussi des dissensions. Mais quoi qu'il en soit, il y a avec une sorte d'alliance hein, bien connue entre la direction de la CGT à l'époque et le Parti communiste français à l'époque également. L'idée que, bon voilà, la grève est victorieuse. Le 6 juin 1968, l'Humanité titre reprise victorieuse du travail dans l'unité. Voilà.
Et victorieuse aller... grâce à ces syndicats, parce que c'est un pouvoir qu'ils n'auront plus jamais par la suite de cette ampleur, Jean-Marie Bernaud, à cause justement de cette crise du syndicalisme qui va commencer une décennie plus tard.
Alors, j'ajoute à ce qui a été dit, que je partage, l'avant, parce qu'on a parlé tout à l'heure de cet avant 68 qui prépare quand même l'arrivée de ce mouvement. Il faut rappeler quand même l'accord interconfédéral de janvier 66 entre la CGT et la CFDT, qui est un accord d'unité d'action qui a quand même été assez moteur dans les mois qui ont suivi, d'action commune dans les branches et dans les entreprises, en particulier dans la métallurgie, où d'ailleurs les pratiques unitaires étaient antérieures à ça. Alors là, ça relève quand même d'un accord de sommet qui a fourni un cadre. Alors après, il est nourri de façon diverse par les structures intermédiaires et à la base, mais en tout cas, ça a permis que se déploie une démobilisation sociale au cours des années qui ont immédiatement précédé 68 et qui, évidemment, ne sont pas pour rien dans l'éclosion du mouvement. Alors après, effectivement, mais d'une certaine manière, c'est un peu toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le rapport entre la grève et le syndicalisme en France, il a toujours fonctionné de cette manière-là. Les syndicats, leur rôle est celui d'une mise en forme. Ils ont des savoir-faire manifestants, d'organiser, pas seulement manifestants, mais aussi de mettre en forme les revendications, enfin, de traduire un peu et de mettre en forme, de socialiser au fond les demandes des individus, d'en faire des objets sociaux qui sont des revendications. Ça, c'est le savoir propre des syndicats. Ils sont capables de l'amener dans des circonstances comme celle-là. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui créent tout. Parfois, ils arrivent un peu après le mouvement, ou en tout cas sur sa survenue, ils lui donnent un écho, ils le mettent en forme, ils aident à éventuellement le déboucher, et puis après il se passe ce qui peut se passer, et en particulier au moment de la reprise du travail, ils n'ont pas toutes les clés, et ils ne les ont jamais.
Et alors qu'est-ce que la crise du syndicalisme va changer à cet idéal, à cet espoir de la grève générale? On en parle dans un instant.
En groupe, en ligue, en procession, en bannière, en slip, en veston. Il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs. Je suis de ceux qui manifestent, avec leur gueule de travers, leur fin de mois qui sonne clair. Les uns me trouvent tous les vices. Avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. Je suis de ce que l'on fait taire au nom des libertés dans l'air. Une sorte d'amoraliste. Le fossoyeur de nos affaires, le déroulé de l'arrière. Le plus complet des défaitistes, l'empêcheur de tuer en rond, perdant avec satisfaction. 20 ans de guerre colonialiste, la petite voix qui dit non dès qu'on lui pose une question. Quand elle vient d'un parachutiste, en groupe, en ligue, en procession, depuis 200 générations. Si j'ai souvent commis des fautes, qu'on me donne tort ou raison, de grèves en révolution. Je n'ai fait que penser aux autres, pareil à tous ces compagnons qui le charronnent à la nation. En ont vu défiler par ordre des pèlerines et des bâtons, sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule. En groupe, en ligue, en procession. Et puis
en groupe, en ligue, en procession, de Jean Ferrat sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, l'historienne Ludivine Bantigny et le politiste Jean-Marie Pernaud sont toujours avec nous pour parler de la grève générale.
Finalement, on se contente de ne pas être syndiqué, c'est tout. On se défend aussi bien.
Comment?
Hein?
Comment?
Quand on a besoin, quand les personnes qui ne sont pas syndiquées veulent se réunir, on y arrive quand même.
Surtout pas mélanger politique et syndicat. Mais alors... non, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est fait, on ne pourra pas revenir là-dessus.
J'ai été syndiqué, mais j'ai été écœuré. Alors...
Est-ce que vous êtes syndiqué?
Non.
Actuellement, on peut pousser quelques-uns, pousser un soupir de soulagement, mais à terme, c'est très dangereux. Si nous ne savons pas, surtout en France, bâtir un dialogue social d'un type nouveau, nous n'arriverons pas à faire face aux difficultés, et il nous faut des interlocuteurs responsables, sérieux, ayant quand même une force suffisante. Sans ça, c'est le dialogue dans la confusion, dans l'anarchie, c'est très redoutable. Enfin, à terme, c'est un risque d'éclatement social.
Un risque d'éclatement social, une archivina de la fin des années 70. Alors, comment on explique ce phénomène de désyndicalisation? Il y a beaucoup d'explications qui ont été avancées, et notamment le fait peut-être que les syndicats étaient devenus des acteurs sociaux étouffés par l'institutionnalisation, le fait aussi que le marché du travail se transforme, que la désindustrialisation fait reculer le secteur ouvrier. C'est un petit peu tout cela à la fois, Ludivine Bantigny?
Oui, vous avez raison d'énoncer tous ces motifs. Bon, Jean-Marie Pernaud pourra en parler bien mieux que moi. Il me semble que, pour autant, peut-être la base, c'est que le syndicalisme reste une dimension importante, et dans les grèves, la plupart du temps, qu'il s'agisse des grèves générales auxquelles on a pu assister en 1995, dans une certaine mesure en 2003, en 2010, les syndicats sont bel et bien présents, mais aussi dans les grèves locales, à la base, très tenaces, très déterminées. Je pense par exemple aux grèves des femmes de chambre dans les hôtels. On les a vu vraiment se multiplier avec un courage assez extraordinaire.
Ils sont présents, mais est-ce qu'ils sont représentatifs? Puisque depuis le début des années 90, on a un taux de syndicalisation qui stagne autour de 11%.
Alors, vous savez, en fait, la question de la représentativité est toujours compliquée, parce que les actions historiques, voilà, pour faire une grande généralité, elles sont souvent menées par des minorités. celles et ceux qui prennent la Bastille, c'est une minorité du peuple de Paris, mais c'est la minorité qu'on retient. Alors, mais vous avez raison pour autant de souligner qu'il y a ce processus d'éloignement à l'égard des syndicats, qu'il y a aussi des critiques qui sont menées à l'égard des directions syndicales. Je pense par exemple à ce qui s'était passé en 2003 où la grève était très puissante et où une partie de la base appelait les confédérations syndicales à dire grève générale, hein, on est au cœur de notre sujet. Et voilà, à la tête de la CGT, il y avait ce refus en disant « mais non, mais on n'appuie pas sur un bouton, ça peut pas être incantatoire, etc. » Donc il y a cette tension-là. C'est plus difficile aussi de se syndiquer dans de petites boîtes, voilà, dans des entreprises avec un petit nombre de salariés où la précarité, la flexibilité sont de plus en plus répandues. Donc il y a vraiment, on l'a vu d'ailleurs encore hier et aujourd'hui, des témoignages arrivés sur « voilà, je me suis mise en grève et je reçois déjà une mise à pied ». Ça existe, ça. C'est réel. D'ailleurs, la répression antisyndicale, même après 68, elle a été puissante aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est difficile de se syndiquer, c'est difficile de se mettre en grève. Je pense que pour autant, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que les syndicats sont toujours des organisations qui transmettent en effet un savoir-faire, des pratiques. Après, la question, c'est de savoir comment les syndicalistes se réapproprient véritablement leur syndicat contre parfois des formes de bureaucratisme au sein de leur direction.
Et alors quel impact aussi cette crise du syndicalisme depuis près de 50 ans, Jean-Marie Pernaut, a eu sur les grèves et sur la décision de se mettre en grève?
Alors n'oublions pas que c'est une tendance internationale. Le recul du poids du syndicalisme n'est pas que français. En France, elle est survenue précocement par rapport à d'autres pays et radicalement. C'est-à-dire qu'en 10 ans, les syndicats ont perdu entre la moitié et 60% des adhérents.
Donc, c'est la décennie 80.
Voilà, le cauchemar des années 80, pour reprendre un titre connu, qui ne parlait pas d'ailleurs du syndicalisme, mais dont on aurait pu appliquer l'analyse vraiment à la lettre au mouvement syndical. Il y a des facteurs franco-français dans cette décrue. Il y a une casse industrielle dans ces années-là qui est tout à fait importante. Alors, ça réduit les emplois, mais pas seulement. Ça porte atteinte aussi à une symbolique sur laquelle s'appuyait le mouvement, les bastions ouvriers qui étaient porteurs d'une identité collective, qui ont été laminés, la sidérurgie, l'automobile, bon, qui n'a pas disparu, la sidérurgie non plus, mais en tout cas les grands bassins d'emploi qui étaient porteurs d'actions collectives ont passablement été réduits, et cette tendance n'a fait que perdurer, puisque il est vrai que le groupe ouvrier traditionnel dans la société a eu tendance à s'effilocher au profit d'une classe ouvrière beaucoup plus diffuse, en tout cas dans ses identités sociales.
Donc, et la conséquence, c'est moins de grèves dans
Et puis
privé.
À cette époque, il y a le gouvernement de la gauche qui arrive et qui, après avoir suscité beaucoup d'espérance jusqu'en 84, avec l'appui des principales confédérations, a retourné sa politique économique à partir de 84. Ça a généré énormément de désillusions que les grandes confédérations ont payé cher. Et après, on pourrait aussi évoquer leur division, puisque c'est quand même à cette époque-là que ce que j'évoquais tout à l'heure, le grand pacte d'unité d'action de 66, qui avait connu quelques petits problèmes en 68, puisque les deux centrales avaient effectivement pas tout à fait la même position sur la reprise du travail, ou même la conduite des luttes d'ailleurs. La rupture est très claire en 84-85 entre les deux principales organisations, et elle perdure. Et tout cela a certainement encouragé un certain manque d'espoir que j'évoquais tout à l'heure, et qui pèse encore. Les moments dans les mobilisations récentes, il faut y venir, lorsqu'il y a eu unité syndicale, ça allait mieux à partir au moment où l'unité syndicale explose. Vous avez évoqué Ludivine 2003, c'est au moment effectivement où l'unité syndicale se rompt que le mouvement connaît une relative décrue qui rendait d'ailleurs difficile du coup à l'époque, même si le non-appel à la grève générale empruntait à d'autres considérations, mais c'est vrai que la rupture de l'unité d'action rendait la chose encore plus compliquée. Et c'est un poids que l'on traîne encore.
Alors justement, oui, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce que la grève d'hier, par exemple, nous dit de la place des syndicats aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont encore associés à ce rêve du grand soir dont on parle depuis le début de cette émission?
Oui, d'ailleurs, ça me permet de revenir à la formule que vous avez employée tout au début de l'émission en disant au lendemain de la grande mobilisation. Moi, il me semble qu'on n'est pas seulement au lendemain, mais on est encore dans la mobilisation, qu'elle est précisément une grève reconductible. Là, avant de venir dans cette émission, on a assisté à une partie de l'Assemblée générale des salariés de Radio France, dont il faut souligner et peut-être même saluer la grève, justement, la mobilisation. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est que précisément, par exemple, exemple, dans la presse du jour, on parle de grève générale et on parle de grève reconductible. Et les syndicats, bien sûr, y jouent un rôle. Encore une fois, c'est une grève, ça a été beaucoup souligné, y compris par ceux que cette grève inquiète. Je pense à Raymond Soubi, qui a été vraiment le monsieur conseiller social d'un certain nombre de gouvernements et de chefs d'État, a dit récemment que c'était une particularité de cette grève-là, du 5 décembre et ses suites, à savoir qu'elle est très spontanée, qu'elle part vraiment de la base, et les syndicats, là, y jouent un grand rôle. Mais la particularité de cette configuration aussi, c'est qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un mouvement social de très très grande ampleur qui est le mouvement des Gilets jaunes, le soulèvement populaire des Gilets jaunes, qui a aussi beaucoup misé sur l'organisation, l'auto-organisation d'un mouvement qui s'est pour partie coupé des syndicats.
Ce qui ne veut pas dire misé sur la grève.
Mais ce qui ne veut pas dire du tout à propos des Gilets jaunes qu'il n'y aurait pas de syndicalistes en leur sein. Il y a beaucoup de militantes et militants syndicalistes de terrain qui se sont reconnus dans ce mouvement, qui ont rejoint les manifestations. Il y a aussi d'ailleurs des fédérations syndicales, des unions départementales ou des unions locales, de la CGT, de Solidaires qui ont appelé à ces manifestations du samedi des Gilets jaunes. Alors, vous posez la question de la grève ou de l'absence de la grève chez les Gilets jaunes. Ça renvoie à ce qu'on disait à l'instant sur le fait que c'est parfois très difficile de se mettre en grève, et une partie de la sociologie des Gilets jaunes nous explique aussi pourquoi la grève est compliquée, puisque c'est vraiment des situations de grande précarité, de pauvreté, parfois tout simplement de chômage. Mais c'est une autre manière d'envisager finalement la grève, parce que ça reste une forme de grève au sens de blocage. La grève, en fait, c'est un instrument, ce n'est pas une fin en soi, c'est pas une finalité.
Ça reste l'idée d'une paralysie de l'économie.
Voilà, exactement, c'est un blocage de l'économie. Donc les Gilets jaunes misent notamment beaucoup sur le blocage des flux de circulation, de la consommation également. Et donc la configuration qui se dessine entre le mouvement des Gilets jaunes d'une part et le mouvement social syndical d'autre part, dans leur entremêlement, c'est de bloquer à la fois la production, la circulation, la consommation, qu'on trouve aussi au travers d'autres mouvements comme Extinction Rébellion sur ce qui concerne la consommation. C'est vrai que les Gilets jaunes ont pointé du doigt quelque chose qui est mis en cause, y compris par des syndicalistes à la base depuis quelques années, c'est le rôle de partenaires sociaux, selon l'expression consacrée, qu'on veut faire jouer aux directions syndicales. Mais venez, nous, on va faire de grandes concertations, etc. Et la plupart du temps, c'est toujours reculer pour mieux sauter dans des mesures qui sont en général extrêmement graves, portant atteinte à des conquis sociaux, à des acquis sociaux. Et donc c'est ce rôle, en fait, d'absorption depuis plusieurs années maintenant, et même plusieurs décennies, de tentatives d'absorption des syndicats dans une logique accompagnatrice de ces mesures qui est contestée.
Et à cette crise du syndicalisme, j'aimerais qu'on vienne à ses répercussions concrètement sur les modes d'action, et notamment le fait peut-être qu'on a donc de moins en moins de grèves dans le secteur privé, Jean-Marie Pernaut, et aussi le fait que les conflits autour de la question du travail sont de moins en moins au centre de la contestation sociale. C'est-à-dire que ça a été assez peu abordé, par exemple, dans les mouvements des Gilets jaunes. La question du travail a été largement absente.
La question du travail, oui, mais la question du travail, elle ressort aussi à travers cette question des retraites. Parce que je suis toujours très surpris, d'ailleurs, de voir qu'on peut parler de réformer, d'aller vers plus de justice dans un système de retraite sans évoquer la question du travail, alors qu'il y a une continuité manifeste entre les deux sujets. C'est un sujet sur lequel les syndicats sont un petit peu en difficulté, parce que ça fait 30 ans qu'ils gèrent des questions de l'emploi. Enfin, quand je dis 30 ans, c'est même un peu plus que ça maintenant. Et que les questions du travail et de la subordination dans le travail a été assez peu traité au cours des années récentes, que ce soit au niveau central des confédérations qu'au niveau des syndicats d'entreprise. Ils ont été absorbés par autre chose, et en particulier par l'institutionnalisation dans des négociations annuelles obligatoires qui les ont déportés d'un agenda propre, hein, où ils n'ont pu que traîner derrière des calendriers de discussion. Alors sur des sujets qui certes intéressent les travailleurs, mais qui ne relevaient pas de ce qu'on appelle l'autonomie des interlocuteurs sociaux. Je déteste moi aussi ce terme de partenaire.
Mais vous êtes d'accord avec Lydie Bottini sur le fait que la grève n'est pas un mode d'action dépassé, qu'elle prend simplement
non,
de nouvelles formes?
Bien sûr que non, voilà. Je pense qu'il y a ça. Bon, c'est Charles Tilly qui nous a un petit peu éclairé là-dessus il y a quelques années. Il y a à chaque moment dans une société ce qui il appelait, lui, un répertoire d'action collective. C'est-à-dire, c'est pas un stock parce que ça vit quand même, mais un certain nombre de moyens d'action qui sont à la disposition des acteurs des mouvements sociaux. Et d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes a apporté à ce répertoire d'action collective des choses avec inventivité, hein. D'abord le port de ce gilet, et puis les ronds-points, ces non-lieux par excellence qui deviennent des endroits de mobilisation. Donc il y a une inventivité permanente du mouvement social, et ce répertoire d'action, il se déplace. Et c'est vrai que la grève globale de l'entreprise privée a pratiquement disparu. Il reste plus que des conflits d'entreprise, mais il en reste. Il y a beaucoup de conflits d'entreprise. Alors évidemment, on parle des grèves dans ce pays quand c'est la SNCF qui s'arrête ou la RATP, mais il y a des mouvements sociaux tous les jours. Alors, pas forcément la grève franche, c'est les débrayages, c'est les refus d'heures supplémentaires, les refus collectifs, c'est les pétitions, etc. Il y a une conflictualité dans l'exercice du travail, et pas qu'en France d'ailleurs. On observe cette diversification des modes d'action dans d'autres systèmes de relations sociales que le nôtre.
Je voudrais justement qu'on s'arrête sur un conflit social en particulier, le mouvement des femmes de ménage de la société Arcade, c'était en 2002.
Il faut qu'il y ait quelque chose qui va changer. C'est pour cela que moi j'ai la force pour que je continue la grève. Je ne peux pas arrêter comme ça. Parce qu'on ne veut pas travailler, on ne veut pas faire travailler les femmes africaines comme ça dans les hôtels. C'est pas normal. On devait travailler mais avec respect.
Je pensais pas que ça allait durer longtemps parce qu'il y a un moment... J'en avais marre, je voulais laisser tomber, hein. Mais c'est Fatih, elle m'a parlé, elle m'a dit que ouais, c'est nos droits, on a le droit de montrer aux gens que tout ce qu'on fait, que l'esclavage c'est fini.
Esclavage, c'est fini!
Un extrait de Remue-ménage dans la sous-traitance, un documentaire d'Ivora Cusack sorti en 2008. Ce sont des femmes, Ludivine Bantini, qui ont obtenu en partie gain de cause au terme d'une année de lutte.
Oui, mais c'est vrai que ces luttes se sont multipliées ces dernières années. Elles m'impressionnent beaucoup, à vrai dire, parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, un courage assez fascinant. J'ai par exemple suivi d'assez près la grève des femmes de chambre à l'hôtel Holiday Inn de Clichy. C'était en plein hiver, hein, le dernier hiver. Elle tenait un piquet de grève toute la journée, tous les jours, dans des conditions très difficiles évidemment, de répression à tous égards, de répression de la part de la direction de cet hôtel, de répression policière, de dénigrement, de racisme aussi, parce que la plupart du temps, ces femmes sont d'origine africaine, elles vivent dans des conditions vraiment difficiles aussi, d'un point de vue familial, etc. Et elles ont ce courage incroyable, et elles ont gagné. Dans tous les cas, on peut penser aussi aux agents du nettoyage des gares Honnête. Il y a eu une grande grève aussi chez Honnête l'année dernière. Et alors là, ça rejoint le mouvement des Gilets jaunes. La grève à l'hôtel Parc Hyatt Vendôme, qui s'est terminée en novembre 2018, c'est-à-dire juste au moment où le mouvement des Gilets jaunes commençait. Et je me souviens très bien que lorsqu'elles ont gagné, puisqu'elles touchent 2 euros par chambre, enfin c'est vraiment pour le nettoyage des chambres, c'est vraiment des conditions de travail et de rémunération lamentables. Et elles ont dit, en fait, nous on salue le mouvement des Gilets jaunes qui est en train de commencer. Mais en fait, il faudrait que les gilets jaunes aussi se battent dans les entreprises. Donc, elle posait la question que vous souleviez tout à l'heure, c'est-à-dire comment réarticuler aussi un mouvement social comme celui des gilets jaunes et le mouvement dans les lieux de travail. Je dirais quand même à propos des gilets jaunes qu'ils évoquent leurs conditions de travail, par exemple comme intérimaires, leurs conditions de rémunération, les salaires qu'ils demandent aussi, enfin, qu'il y a des revendications et des aspirations sur les salaires. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu, certains ont parlé de grève jaune orale, de gilets jaunons la grève ou la grève générale, etc. Il y a eu des tentatives en ce sens, mais elles sont minoritaires.
En tout cas, ça nous apprend plusieurs choses. Cet exemple de la grève de ces femmes de chambre de la société Arcade, c'est que on voit là un mouvement qui montre l'appropriation de modes de lutte par des secteurs où ces traditions étaient peut-être moins ancrées, Jean-Marie Pernaud. Et puis, ça remet en question aussi cette idée reçue, souvent répandue, selon laquelle la grève, finalement, est devenue l'apanage du secteur public.
Oui, tout à fait. On se souvient même de la phrase de Sarkozy sur maintenant, quand il y a une grève dans le pays, on s'en aperçoit pas. Bon. Donc, il y a un discours aussi produit sur la grève, sur son archaïsme présumé, c'est l'ancien monde, etc. Bon. Et en fait, la logique des rapports de force, malgré tout, elle continue à structurer les relations sociales. Et ça, on a beau prier, se mettre à genoux et prier, ça change rien. Donc la grève fait partie de ces moyens et c'est souvent du dernier recours parce que la grève est coûteuse. Elle est coûteuse financièrement, c'est sûr, elle est coûteuse psychologiquement. Elle s'offre à la répression qui, dans le pays dit des droits de l'homme, ce qui me fait toujours un peu sourire, mais reste malgré tout la répression patronale. Ça existe. Ça explique pas seulement l'affaiblissement syndical, parce que ça a toujours existé, malheureusement. Donc, c'est pas un facteur extrêmement nouveau, mais puisqu'on nous parle de mœurs policées et de société moderne, il est bon, malgré tout, de le rappeler. Je crois quand même, si on veut revenir au mouvement actuel, avant de penser à la grève générale, il y a la question de la généralisation de la grève, hein, c'est souvent ce que répondait la CGT aux exhortations à appeler à la grève générale, mais surtout la tenir, déjà, telle qu'elle est, parce que je crois que la grande nouveauté de la journée d'hier, par rapport au grand mouvement qu'on a connu, le dernier grand, je dirais, c'était 2010, j'y pense aussi parce que c'était sur les retraites. Mais la particularité,
il y avait eu entre 2,5 millions de personnes dans la rue selon les syndicats et 1,1 million selon
le ministère. Alors, ce qu'il faut regarder maintenant, parce que les mouvements sociaux ont pris cette allure, c'est-à-dire qu'on ne les observe plus à travers une manifestation, mais à travers une série, une séquence manifestante. Ça a été inauguré en 95. Enfin, il y avait des prémices, mais en 95, on a apprécié la force du mouvement par son déroulé au cours des mois d'octobre, novembre, décembre, en cumulant le 12 décembre par une manifestation très importante et un taux de grève très important. Les mouvements qui ont eu lieu depuis 2003, 2006, 2009, 2010 sont des mouvements où la part de la grève est beaucoup moindre. Et ça, peu d'observateurs le relèvent. J'insiste là-dessus parce que de l'autre côté, en face, ils observent ça. On parlait de Soubi tout à l'heure. J'ai souvenir qu'en 2009, il y avait une grande manifestation en janvier et une autre plus grande encore en mars. Et ils l'avaient commenté de cette manière en disant « oui, mais il y avait moins de grévistes ».
Et alors pourquoi ? Comment on l'explique ?
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire grève sans forcément avoir recours à la grève franche. Et que, de plus en plus, la portée, la manifestation a toujours accompagné la grève. Hein. Il s'agit pas de mettre en opposition deux formes d'action qui sont historiquement très liées. Hein, la manifestation, c'est la mise en espace public d'un conflit, c'est la recherche de soutien auprès de l'opinion, etc. Mais le hiatus des grands mouvements qu'on connaît depuis 10 ou 15 ans, c'est de voir, sans qu'on s'en rende très bien compte, que la part de la grève y était de plus en plus faible, malgré les manifestations d'autant plus massives. Et ça, c'est très important. En 2010, alors au point d'ailleurs que le mouvement lui-même, à la fin, se pose la question de l'efficacité, puisque à la fin du mouvement de 2010, on commence à dire « Ah mais, faut bloquer les... » Alors, on a été sur les raffineries, parce que là, il n'y avait pas les cheminots, il y avait les routiers en 2003, mais bon, là, la police est intervenue très vite pour éviter la réitération des barrages qu'on avait connus au mouvement précédent, parce que tout ça bouge, hein, personne n'est inerte, hein, dans ce genre de conflit. Et donc, à un moment donné, la question de la grève se pose. Parce que, au fond, les pouvoirs publics, ils assistent à des manifs récurrentes, il y a beaucoup de monde, ça fait du 20h avec quelques banderoles quand on peut pas vraiment les étouffer, mais voilà, so what.
Il y a un risque.
Par contre, la question aujourd'hui, et c'est là qu'on fait le pendant avec 95, c'est qu'il y a eu énormément de grèves hier. Le taux de grève dans les services publics est plus qu'il n'a été, pas seulement dans les services publics, on a vu les raffineries, etc. Et ça, il faut déjà le tenir, que ce soit pas simplement un coup d'épée dans l'eau. Et là, il y a déjà un enjeu pour les jours qui viennent, parce que avant de parler de généralisation, il faut déjà que ce qui a été semé là puisse produire des effets.
Vous avez évoqué le conflit social de 95, on a entendu un certain nombre de commentateurs faire le lien avec le conflit actuel. D'abord, je vous propose d'écouter cela.
C'est le plan Juppé qui veut ça, vous voyez ?
Ça fera quoi le plan Juppé ?
La mort des cheminots, en direct.
Ça a été trop loin maintenant, ils vont gagner.
Vous faites quoi ?
Contre le plan Juppé, contre le contrat de plan.
J'ai surtout le sentiment qu'il ne prend pas la mesure de ce qui est en train de grandir dans le pays. Ça, oui, j'en ai la conviction.
Le gouvernement aujourd'hui, il ne se sent pas bien. Parce qu'un gouvernement qui négocie pas avec les organisations syndicales, c'est qu'il n'est pas bien dans sa tête.
On en a marre d'être cotisé et on n'est pas augmenté. On commence à en avoir marre, on ira jusqu'au bout. Ouais.
Voilà les témoignages des manifestants recueillis le 5 décembre 1995. Qu'est-ce qui a caractérisé ce conflit, Ludivine Bantini? Pourquoi est-ce qu'il est resté aussi central dans l'imaginaire collectif?
Bah d'abord par son ampleur, voilà, par sa durée. Il a duré 3 semaines. C'était un conflit qui était véritablement interprofessionnel. Donc on peut bel et bien parler de grève générale. Il y avait une détermination qui a poussé d'ailleurs le gouvernement à reculer. À reculer pour partie, hein, à reculer sur sa, ce que j'appellerais moi une contre-réforme, parce que j'aime pas beaucoup parler de réforme quand il s'agit de ce qu'on peut juger comme des attaques sociales, en l'occurrence sur les retraites. Donc sa contre-réforme sur les retraites, Juppé a été obligé de la retirer.
Mais pas les mesures sur la sécurité sociale.
Voilà, donc c'était une demi-victoire, mais qui a été bon, considérée quand même comme telle. C'était, bon, on s'en souvient, voilà, c'était que le pays était là aussi pour partie bloqué, les transports, mais ça a créé aussi une atmosphère particulière qu'on a en partie retrouvée d'ailleurs hier, c'est-à-dire les gens qui font du stop, qui se déplacent, y compris pour aller manifester, qui vont à pied, etc., qui se parlent. Voilà. Et ça a d'ailleurs renoué aussi pour partie avec l'esprit de 68, c'est-à-dire on se parle, on prend le temps de se parler, de marcher ensemble, etc. C'est un esprit qu'on a d'ailleurs retrouvé dans un mouvement dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, et c'est la fin de l'émission, mais au moment de la mobilisation contre la loi dite travail, puisque les grèves se sont accompagnées de manifestations importantes et elles se sont aussi mêlées à ce mouvement qui a été mis debout, d'occupation des places, où là on s'est mis aussi à réfléchir vraiment en profondeur en disant voilà, c'est contre la loi travail et son monde. Donc en fait, un mouvement de grève permet aussi d'activer un imaginaire alternatif qui est vif en fait.
Et ce mouvement de 95 est peut-être aussi resté gravé dans les esprits, Jean-Marie Pernaud, parce que certains intellectuels comme Pierre Bourdieu l'ont défendu publiquement, et ça aussi ça contribue peut-être à créer cet imaginaire dont parle Ludivine Bantini.
Ah, il y a eu un débat intellectuel très fort autour de ce mouvement. Alors effectivement, il y a eu la pétition initiée, enfin, sous le nom de Pierre Bourdieu, mais elle venait en réponse à une autre qui était partie d'autres courants plutôt proches de la sociologie d'Alain Touraine. Alors principalement en défense de la CFDT, qui, elle, acceptait le plan Juppé de réforme de la sécurité sociale, donc en soutien à ce mouvement-là. Et le débat s'était cristallisé, a partagé d'ailleurs beaucoup de labos de recherche, hein, avec des tensions très très fortes. Hein. Il y a eu un débat intellectuel autour de ça que peut-être on a moins vu par la suite. Donc effectivement, ça a été un moment de rupture très important.
On arrive au terme de cette émission. Un dernier mot, peut-être, Ludivine Mantini, sur l'avenir de la grève comme mode d'action, alors que la mobilisation entamée hier, alors ce que je décrivais en début de cette émission, c'était la mobilisation, la manifestation, d'où ce au lendemain. Cette mobilisation d'hier se poursuit en effet, ce rapport de force avec le gouvernement ne fait effectivement peut-être que commencer.
Oui, et ce qui est frappant, si j'ose dire, c'est que Ce terme de grève générale, voilà, il est employé dans les médias, y compris les mêmes médias qui ne cessent de considérer que tout ça a surtout des conséquences sur les usagers, c'est la prise d'otages, etc. Tout ce vocabulaire incessant qui consiste à ne pas parler des motivations de celles et ceux qui se mettent en grève et qui vont manifester, ou alors à en parler de manière extrêmement caricaturale et défigurée sur les régimes spéciaux qui sont jamais vus comme des droits et des conventions collectives, cette mesure sur les retraites qui n'est pas jamais considérée comme dans sa dimension vraiment qui va toucher tout le monde et pas du tout seulement celles et ceux qui bénéficient de ces conventions collectives. Donc il y a cette première chose, c'est cette manière de contrer aussi par des réflexions collectives un certain discours dénigrant sur la grève dans ses motivations. Et puis il y a la dimension aussi de solidarité qui est très forte, il me semble, dans ce qui se dessine, la volonté par exemple assez rapidement de mettre en place des caisses de grève, des caisses de lutte, des caisses de solidarité pour alimenter, en fait pour aider les gens à tenir dans la durée cette grève.
Eh bien, c'est la fin de cette discussion. Un grand merci à tous les deux, Ludivine Bantini, Jean-Marie Pernaud, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. La semaine prochaine, tout autre sujet. Vous saurez tout du libre-échange, de ses origines à sa nécessaire évolution à l'heure du dérèglement climatique. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi. Feeling so high and low at the same time. It's hard to know to understand what I mean. Once you touch the sky and it went down. It's hard to know to understand what I mean. Once you touch the sky and it went down. It's hard to know to understand what I mean. Hard to know to understand what I mean. Close.
close your eyes, closed and white shirt. Use your inner senses and you will figure it out. Close your eyes, closed and white shirt. Use your inner senses and you will figure it out. Like a dream you can't remember, I know it's hard to understand what I meant. Like a sweet dream you can't remember, I know it's